Bonjour bien-aimés, soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous allons commencer ce moment, je vous invite une fois de plus à vous mettre debout, nous allons présenter ce moment. Nous sommes encore reconnaissants, Dieu notre Père, pour cette invitation que tu nous fais en ce matin, pour pouvoir venir te louer, te prier, te chanter, t'adorer, t'écouter. Merci encore pour tout ce que tu as en réserve pour chacun de nous, tout ce que tu prépares encore pour chacun de nous. Nous voulons vraiment t'offrir toutes ces louanges, toute cette adoration. Reçois l'expression de nos cœurs qui veulent te dire combien nous t'aimons. Que tu puisses vraiment accepter toute cette adoration, toute cette louange que nous voulons faire monter vers toi au nom de Jésus. Amen. Nous savons que lorsque Jésus est arrivé dans le temple, dans Jean 2, versets 13 et 17, il y avait beaucoup de monde donc dans la cour, dans le temple. Mais on peut se demander quelles étaient les motivations de chacun. Donc quand on a vu ce qui s'est passé, on sait qu'il y avait beaucoup de changeurs de monnaie, de vendeurs de bœufs, différents animaux. Et cela n'a pas forcément plu à Jésus. Donc il peut y avoir beaucoup de personnes qui était dans le temple à cette époque-là, mais tout le monde n'était pas motivé. Tout le monde n'avait pas la motivation de venir louer Dieu. Aujourd'hui, j'espère que c'est notre cas, tous, notre motivation ce matin, c'est nous voulons vraiment te dire, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Notre motivation, c'est de te louer. Nous voici, Seigneur.
Voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos temps, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crieurs. Sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos temps. Et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur.
Nous sommes venus pour louer le Seigneur. Et nous savons que dans Matthieu 18, 20, nous dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur, disons « Adorons Adonai, nous adorons Adonai. »
pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es. Serviteur, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai. Ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement.
Dans mes cœurs
pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur, tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement.
Amen. Je vous invite à louer Dieu notre Père. Amen. C'est vrai que Dieu, il a permis un sacrifice, le sacrifice de Jésus sur la croix pour chacun de nous. On ne pourra pas expliquer ce grand amour qu'il a pour chacun de nous. Mais ce que nous savons, c'est que en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais pourquoi dans sa grâce.
Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché.
Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main. J'attends l'heure de son retour.
Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur.
Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour.
Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur.
Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire pleure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour.
J'attends
l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour.
Amen. J'attends l'heure de son retour. Nous sommes toujours dans un contexte très... Là, on revendique des choses, on attend des choses. On est très dans la revendication actuellement, donc il y a la contestation, il y a un peu tout. C'est vrai que dans certains cas, on peut contester certaines choses. Mais dans certains cas, il faut aussi reconnaître quand Dieu fait de bonnes choses pour nous. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de nous. Malgré toutes les situations, malgré toutes tout ce qui se passe actuellement, Dieu prend soin de nous. Mon Dieu est si bon. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. N'ayant aucune crainte, aucune angoisse, aucun stress, même si les circonstances qui nous entourent nous poussent à cela, avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Nous voulons que la gloire de Dieu revienne dans son Église. Nous voulons que tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles, que la gloire du Seigneur revienne. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. C'est le cri de notre cœur ce matin à travers ce chant. Que ta gloire revienne.
Ton corps dans l'unité et que l'ennemi devant notre amour soit éloigné.
Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'église. Que ta gloire.
c'est que ta gloire revienne dans l'église. Que personne de l'extérieur puisse dire, dans cette église, il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des choses qui se passent qui font qu'on n'a pas envie de venir dans cette église, qu'on n'a pas envie d'écouter la parole de Dieu. Mais que vraiment la gloire de Dieu revienne dans cette église. Juste avant de passer à la prédication, je vais appeler notre frère Émile pour présenter à nouveau Mike James qu'on connaît, mais juste présenter. Je vous invite à vous asseoir.
Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci d'être parmi vous pour une deuxième fois. La dernière fois, il était deux mois. Et dans un instant, on va voir quelque chose projeté à l'écran là. Mais en attendant, waouh, c'est chouette d'être parmi vous avec les chants ce matin. C'est chouette. Les louanges, le groupe de louanges, waouh! Ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir, ma femme et moi, d'être ici avec vous pour ça. C'est bon de louer le Seigneur. Amen. C'est bon de louer le Seigneur dans les chants, ce que nous avons fait à l'instant. C'est bon de louer le Seigneur aussi dans nos vies ordonnées, dans nos vies structurées. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'événement que tu as trouvé? Vous connaissez l'histoire de quand Jésus est parti avec les disciples, à un moment donné, il trouvait un bonhomme qui vivait dans le désordre complètement, et avec des porcs autour de lui, et tout le monde avait peur de lui, et Jésus lui demandait, quel est votre nom? Et il lui a dit, son nom est Légion, parce qu'il y avait tant d'esprits qui vivaient en lui. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri le bonhomme, et le bonhomme était assis dans son bon sens, assis là. Et ça me touche, ça me frappe, l'ordre que Jésus peut mettre dans nos vies. Et c'est pour ça que je vous parle ce matin, de dans ce sens-là, évidemment, je vais parler pas mal des finances, mais en deux sens. Il y a deux sens quand je vous parle de finances ce matin. Premier sens, c'est, je ne vous dis pas que vous soyez dupe, je vous dis pas que vous soyez pris en pensant que l'argent résout tous nos problèmes. Ce n'est pas vrai. L'argent est, il ne faut pas qu'on adore l'argent. Jésus en a parlé beaucoup, vous savez ça, je vous l'ai dit la dernière fois, je vais vous taquiner là-dessus tout à l'heure. Et deuxièmement, je vais vous encourager avec de l'ordre dans vos propres vies. Je vous remercie Émile qui m'a accueilli et Serge et le conseil d'église d'avoir invité pour aujourd'hui pour ça. Ce matin, je vais donner un message, suite du message de la dernière fois, ainsi que des réflexions pratiques. Cet après-midi, je vais faire deux séminaires. Ah, attends, peut-être qu'il faut que je mette en route. Voilà, ça marche. Je vous rappelle ce que je vous ai dit la dernière fois. Suggestion d'exercice pratique. C'est à l'école. J'espère que vous avez fait au moins une partie de cela. Je ne vais pas vous demander, je ne vais pas vous tester, mais je vais tout simplement revoir avec vous. Est-ce que vous avez prié pour la gestion de votre argent? Est-ce que vous avez donné régulièrement? Est-ce que vous avez commencé une épargne de précaution? J'en parlerai plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez créé et suivi un budget de mois d'avril, peut-être, ou de mai? Est-ce que vous avez poursuivi le remboursement des dettes? Bon, ça, c'est ce que je vous ai laissé la dernière fois. Je vous ai encouragé de mettre de l'ordre dans les finances. Et je vous ai dit la dernière fois que pourquoi parler des finances comme ça? Nous passons beaucoup de nos vies à gagner et à dépenser de l'argent. Donc c'est un point qui est important pour nous. Et je vous ai rappelé qu'il y avait deux économies en concurrence. L'économie du monde qui dit acheter, vendre, et l'économie de Dieu qui dit donner, recevoir. Et donc, et je vous ai parlé de l'expérience d'un missionnaire en Italie appelé Georges, comment il a reçu dans sa boîte à lettres lors d'une grève postale une enveloppe avec fenêtre, donc très, très visible, contenant des billets avec une valeur totale de l'ordre de 2000 Deutschmark. À l'époque, environ 700 euros visible. Et comment ça lui a béni? Je vais dire, je vous raconter cette histoire la dernière fois. Pour la paix dans nos vies, êtes-vous inquiète pour par votre situation financière? Ne me dites pas, ne répondez pas. Vous réfléchissez quand même. Faut partir de l'idée qu'on manque d'argent. J'y reviendrai sur ce point cet après-midi. Parce que vous avez répondu à ma questionnaire la dernière fois et vous avez une feuille d'appréciation, vous avez beaucoup de remarques et je trouvais très encourageant et vous avez beaucoup de questions. Alors les questions, je reviendrai dessus au début de l'après-midi. J'ai noté une douzaine, une quinzaine de questions diverses et variées d'une personne, je ne sais pas de qui, et ce n'est pas grave. Mais je vais essayer de répondre au mieux à vos questions début de cet après-midi. Et ça, c'est une des questions concernant ça. C'est la première source de tension dans un couple. Et finalement, c'est ça qui dit le divorce n'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Point barre. Ce n'est pas une bonne idée économique non plus. Non. Est-ce que plus d'argent nous rend plus heureux? Pas sûr. Benjamin Franklin écrit « Le plus qu'on a, le plus qu'on veut. » Toujours. Et je vous ai parlé la dernière fois d'une citation que je vais vous donner cette fois-ci. John D. Rockefeller, un Américain, qui était un des hommes les plus riches dans le monde. Le bonhomme, je ne connais pas. Je ne connaissais pas. Alors, on lui a demandé combien d'argent est suffisant pour vivre. Et il a répondu, un tout petit peu plus. Il était le bonhomme le plus riche du monde. Il voulait plus. Il voulait plus. Nous voulons souvent un tout petit peu plus, ça je comprends. Mais après qu'on a eu un tout petit peu plus, on voulait un tout petit peu plus, et après on voulait un tout petit peu plus, et ça s'enchaîne comme ça. Jésus parlait souvent de l'argent, et j'y reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et l'argent, c'est comme le ton, ce n'est pas élastique. Ce n'est pas élastique comme ça. Il a des limites. Il a des limites. On ne peut pas le dépenser d'une manière inconsidérée sans se rendre compte un jour qu'on n'en a plus. Ou pire, que nous avons des montants considérables aux banques ou à d'autres personnes. Je vous rappelle que nous sommes les intendants de ce que Dieu nous a confié, y compris l'argent. Ça, c'est important, et je vous dis que redire ça, que nous sommes des intendants de ce que Dieu nous a confié. Que ce soit un tout petit peu, un peu plus, que ce soit beaucoup. Le montant n'est pas important, c'est Dieu qui sait ce que nous pouvons gérer. La dernière fois, je vous ai parlé de Marc 10, je vous ai parlé de Jésus en rencontre avec le jeune homme riche. Alors, il y avait un très bon contact entre Jésus et le jeune homme. Jésus l'aimait et le jeune homme gardait tous les commandements, ou quasiment tous les commandements, là, sauf les commandements qui concernaient sa relation avec Dieu. Il y avait un conflit entre l'amour de l'argent et l'amour de Dieu. Le monde autour de nous, comme vous le savez, nous encourage de dépenser, sans penser au lendemain. C'est cela le message que nous entendons. La séduction du consumérisme pèse très fortement sur chacun de nous, au moins si vous êtes comme nous, ce que je pense. Nous voyons cela, nos familles, les enfants qui veulent toujours plus parce que le copain, le copine a quelque chose qu'ils n'ont pas, ou encore dans toute la publicité qui tombe dans la boîte à lettres qu'on voit autour de nous, toute la publicité qui nous entoure, qui nous encourage, qui nous incite, qui nous demande de dépenser plus. Par ailleurs, les messages de publicité, vous les avez lus, sont souvent mensongers. Regardez bien vous-même. Vous méritez ceci. Vous méritez cela, dit la publicité. Nous savons devant Dieu ce que nous méritons. Et grâce au Seigneur que Jésus. La publicité prétend que nous pouvons avoir tout ce qu'on voudrait tout de suite. Ce qui est clairement faux. Donc, ne soyons pas durs. C'est cette séduction de l'argent qui veut nous détourner du vrai. Et la seule chose qui est vraie est Dieu. Donc Dieu d'abord, l'argent après. En tant que chrétien, comment agir? Comment répondre à cette pression permanente autour de nous? Vous l'avez vu, nous, dans la boîte aux lettres, cette semaine, chez nous, à l'autre côté de Paris, nous habitons à Élancourt, pas loin de Versailles, donc de l'autre côté, et nous avons eu 3 ou 4 liasses de publicité qui sont tombées dans la semaine comme ça. Chacun avec un but précis. Quelquefois, il a moins de 10%. Quelquefois, moins de 25%. Mais nous savons comment on peut faire moins 100%. Ne pas acheter. J'aimerais développer aujourd'hui avec vous, dans un premier temps, 2 éléments de réponse à cette question. Comment gérer tout ça? 2 éléments qui peuvent nous aider à combattre l'appel de maman dans nos propres vies. Et donc, je les appelle des antidotes. Ne pas confondre avec un groupe musical qui s'appelle Les Antidotes aussi, et qui vont se trouver jeudi soir à la convention de l'AI, au Pontecombo. Donc j'espère que vous serez là, les jeunes, évidemment, et les moins jeunes aussi. Nous comptons y être, donc. 2 antidotes pour tous ces soucis de l'argent. Premier antidote, c'est contentement. Je vais vous lire, on peut lire ensemble, 2 Corinthiens 11, versets 18 à 28. C'est un moment particulier dans les écrits de Paul où il dit, il se révèle, il s'ouvre un peu à ce qu'il a vécu. 2 Corinthiens 11, à partir de verset 18. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe un visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qu'on peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Ainsi va la parole de Dieu. C'est ce que Paul écrit. Vous savez, dans les années passées, avant qu'on avait, je ne vous rendais pas compte de ceci, mais il y avait un moment où on n'avait pas de téléphone à la maison. Ouf, peut-être le plus vieux me souviendrait de ça. Et un soir, j'ai laissé ma femme à la maison avec nos jeunes enfants et j'ai amené des amis pour voir Paris. Donc nous avons visité un peu Paris et en rentrant, on roulait sur le périphérique. Et ce qu'on lit, ce qu'on voit sur les dessins animés, un de mes roues m'a dépassé. Je roulais sur trois roues sur la voiture et l'autre roue s'est décalée, s'est enlevée et s'est dépassée. Alors, on s'est arrêté très vite. Vous imaginez bien. On s'est arrêté très vite sur le feu. Alors, un taxi qui était derrière moi a remarqué ce qui se passait et m'a amené au poste de la police en bas de la préfecture, qui n'est pas très loin. C'est la seule fois dans ma vie que je voyais dans un taxi gratuitement. Là-bas, au poste, il y avait un policier avec les pieds au bureau, très à l'aise. C'était 10 heures le soir, comme ça, très à l'aise. Merci de m'avoir prévenu. Bien sûr, vous pouvez laisser la voiture sur le périphérique. Ça coûterait moins cher pour l'enlever le matin que le soir. Bien sûr, pas de souci. Merci. Au revoir. Donc, avec ça, j'ai dû prendre un autre taxi pour revenir sur le périphérique. Ça, il fallait payer. Et quand je suis arrivé à la périphérique, il y avait les services de gendarmerie qui parcouraient la périphérique. Ils ont trouvé la voiture en panne. Pas question de laisser la voiture sur la périphérique. C'était presque reparti en remorquage. J'ai pu partir avec, mais c'était tout juste. Alors, le bonhomme, ce qui m'a frappé, c'était le bonhomme au bureau, avec ses pieds tranquillement sur le bureau devant lui. Vous savez comment. Ouais. Je me demandais s'il était content. J'en sais rien, mais il avait tout l'air tranquillement comme ça. Était-il content? Pas de souci. Alors, je n'étais pas content, je suis pas surpris s'il était content. Mais qui est-il plus content de son lot? Qu'est-ce qu'on lit de Paul? Tout ce qu'il a passé là, et il était content. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve, dit Paul. Lui n'était pas avec le pied sur le bureau. Il était en prison, lapidé, et tout, et tout, et tout. Et le verset que j'ai lu, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve, Philippiens 4, verset 11, se trouve, c'est écrit pendant que Paul était en prison. En prison. Si Paul n'avait pas été en prison, par ailleurs, on n'aurait peut-être pas eu toutes les lettres. En Luc 3, 14, Jean-Baptiste disait aux soldats, « Contentez-vous de votre solde. » Alors, nous voyons que le problème, on parlait de contentement ce matin. Dans le message, dans la louange, on parlait des gens qui râlent. Ce problème de mécontentement n'est pas un problème tout récent. Ça va plus loin. Si Jean-Baptiste a dû dire ça aux soldats. La Bible dit que si nous voulons vivre dans un festin perpétuel, il faudrait que notre cœur soit content. Vous voulez vivre dans un festin perpétuel? Le cœur content est un festin perpétuel. Proverbe 15, verset 15. Ça, c'est une raison. Ça, c'est une raison. Un antidote. Un antidote, c'est le contentement. Je nous encourage d'être content là où le Seigneur nous a placés. Et le deuxième, si vous voulez bien, coucou. Alors, j'ai perdu la main, là. Voilà, ça marche. Le deuxième contentement est donné. Donner le deuxième antidote à tout ce qu'on demande à dépenser, c'est tout simplement donner. Nous croyons volontiers que Dieu a un plan pour nous, au moins, je l'espère. N'est-ce pas? J'espère qu'il y a ici qu'il n'y a personne qui ne fait pas confiance au Seigneur pour sa vie maintenant et plus tard, évidemment. Mais est-ce que nous rendons compte que cela comprend notre portefeuille également? Si Dieu a un plan pour notre vie, il a un plan pour notre portefeuille. Est-ce que nous avons jamais pensé que Dieu pourrait avoir un plan pour notre argent? Cela nous appartient. Non. C'est comme la gestion de notre temps et la gestion de nos pensées. Nous pensons que tout cela nous appartient à nous. Non? Je vous annonce que Dieu a un plan pour tout votre argent. toute votre vie, là j'ai compris. John Wesley, un grand prédicateur anglais du 18e siècle, avait trois règles pour la gestion de l'argent. Il prêchait souvent à des foules de personnes qui étaient assez mouvementées. Je n'étais pas aussi calme que vous ce matin. Et les prédications étaient assez mouvementées également. Son première règle, gagnez autant que vous pouvez. Oh, on l'entendait dans la foule. Ouais. Il sait de quoi il parle, ce bonhomme. Gagnez tout que vous pouvez. La deuxième règle, c'était épargner autant que vous pouvez. Et la troisième règle, c'était donner autant que vous pouvez. En Proverbe 3, verset 9 à 10, nous lisons « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » Prémices, c'est un mot qu'on ne trouve pas souvent dans la vie courante d'aujourd'hui, mais ça veut dire tout simplement au début, les premières choses. Dans le temps, j'écrivais un chèque pour mes enfants le premier dimanche du mois. Avant d'aller à l'église, j'écrivais mon chèque et je mettais ça dans le collecte là. Maintenant, avec les virements, c'est plus compliqué. Je n'ai pas cette référence de premier dimanche du mois. Donc, j'essaie de faire mon virement le premier week-end du mois pour que ça soit régulier. Les principes de finance dans la Bible ne peuvent être compris que par la foi. Donner à Dieu nous aide à dire que nous avons plus de confiance en Dieu que nos propres ressources. Je veux dire ça. Donner à Dieu nous aide à dire que nous avons plus de confiance en Dieu que nos propres ressources. Quel que soit le montant que nous donnons, qu'il soit beaucoup ou peu, que nous le donnions par la foi, sachant que Jésus a promis de bénir et à pourvoir à tous nos besoins. Deux réflexions, deux petites histoires. Une histoire et une réflexion. Si on remonte, je vais vous lire une histoire qui remonte aux années 2002. Qu'est-ce qui s'est passé en 2002? Oh, aujourd'hui, on a tout douté pour ça. Mais c'était un grand mouvement en France, en Belgique, en Allemagne, pas en Angleterre, en pas mal de pays. C'était l'arrivée de l'euro. OK? Alors, c'était l'arrivée de l'euro. À ce moment-là, les francs disparaissaient, grosso modo. Le billet de 500 francs meurt le premier. En arrivant au paradis, Dieu lui dit, « Va te ranger tout au fond. » Le billet de 500 obtempère en grand moment. Ensuite, c'est le billet de 200 francs qui meurt lui aussi. En arrivant au paradis, Dieu lui dit d'aller se ranger au fond un peu avant le billet de 500 francs. Idem pour le billet de 100 francs, quand il meurt, il va se ranger au fond, mais un peu devant le billet de 200 francs. Pareil pour la pièce de 10 francs, puis celle de 5 francs, celle de 2 francs, celle de 1 franc. Vous vous souvenez de tout ça? Finalement, arrive le tour de la pièce de 5 centimes qui meurt et qui est accueillie en fanfare. Dieu lui dit se fâcher et même s'asseoir à ses côtés en disant « Ah, cette bonne pièce de 5 centimes !» Immédiatement, au fond, surgit une protestation du billet de 500 francs qui dit qu'il ne comprend pas ce traitement de faveur. Alors Dieu, dans sa grande sagesse, lui demande sèchement de la fermer, en ajoutant, « Quand tu étais sur terre, il me semble que tu n'as pas vu beaucoup à l'église. » Les 5 centimes, oui. Vous savez, aujourd'hui, je trouve dans les offrandes, je compte les offrandes à Versailles, l'église où les et moi nous avons, je les compte de temps en autre, et je trouve des pièces d'un centime, un centime d'euro, deux centimes, etc., cinq centimes. Je veux bien qu'on enseigne aux enfants de commencer à donner, Mais il ne faut pas les laisser donner toujours un centime, deux centimes, là, qu'ils apprennent à faire plus. Alors, que dit la Bible sur donner? Alors, il y a une promesse qui est très importante à cela, et c'est dans Malachi. Malachi 3.10, je ne peux pas laisser passer ce point sans vous lire Malachi 3.10. Malachi 3.10, Malachi, le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, juste avant le Nouveau Testament. C'est facile à trouver en ce sens-là. Et dans ce livre de Malachi, le Seigneur râle. Il râle à Israël et il parle de tous les péchés qu'ils ont commis, etc. Je vais peut-être commencer à verset 7. 7 à 10 en chapitre 3. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Les gens d'Israël disaient, en quoi avons-nous trompé? Il est très clair, très précis, et il parle des dîmes et offrandes. Et il va plus loin que râler, ce qu'il a tout le droit de faire, mais il dit, mettez-moi la preuve. Mettez-moi la preuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Le Seigneur demande à son peuple de donner d'abord et ensuite de voir l'abondance avec laquelle il le donnerait. En Luc chapitre 6, Jésus dit, donnez et l'on vous donnera. C'est-à-dire donner d'abord, recevoir ensuite. Vous vous rendez compte, comme j'ai dit la dernière fois, vous vous rendez compte que de toutes les idées dans le temps de Jésus, celle qu'il a dressée avec plus de sévérité était maman. Maman, il lui donne de l'argent. Il était très sévère contre cela. Nous voyons cette idole de l'argent très répandue dans le faux évangile de la prospérité aux États-Unis, en Europe, en Afrique et par ailleurs aussi. Avant d'aborder quelques questions pratiques, quelques remarques pratiques maintenant, je voulais tout simplement prier à ce point pour demander au Seigneur de nous aider avec ce qu'on a entendu là. Seigneur, je te prie que tu nous protèges de maman dans nos propres vies. Je prie ça pour toutes les personnes ici présentes. Je prie ça pour ma femme et moi également, Père. Que tu nous protèges, que tu nous aides à bien gérer l'argent et les autres ressources que tu nous as confiées. Que tu nous aides d'être contents avec ce que nous avons. Que nous aides d'être des donateurs généreux. Pour ton honneur et ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Bon, maintenant, je reviendrai au slide, au diapo, et voilà. C'est ça, moi? Non, je ne sais pas encore. Oh, voilà. OK, le 12 mars dernier, il y a 2 mois. OK, ça fait un bail. Et pas tous les prédicateurs vous demandent qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois. Heureusement. Et j'ai dit ça pour nous aussi, pas simplement pour vous. J'ai parlé de ce que la Bible dit sur l'argent. Et j'ai dit qu'il y avait quelques versets dans la Bible. 50? 100? 2300? Chapeau. Je lui ai dit qu'il avait plus de 2000, 2300, 2500 dans ces jours-là. Versets dans la Bible qui parlent de l'argent. Donc, quand nous parlons de l'argent, ce que nous allons faire le reste de la journée, toute la journée, on s'oriente vers la Bible en même temps. Alors, 2300 versets. Donnez-moi, hein? Donnez-moi un verset. Quiconque. Je vous piège là. Nous avons regardé l'après-midi pas mal de versets. Hébreux 13:5. Oui. Hébreux, vas-y. Ça, c'est le verset que tu as dû avoir la dernière fois.
Ne vous livrez pas d'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'apporterai
point. Chapeau. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, et je ne te prendrai point. Wow, merci Seigneur. Et ça résume, merci pour le verset, parce que ça résume ce qu'on a dit la dernière fois, pour ne pas être attiré par l'amour de l'argent, et ce qu'on a dit aujourd'hui, d'être content de ce qu'on a. Et ce verset résume tout ça. Un autre verset, sinon je vous donne le verset que j'ai noté. Ok, dans l'enchaînement sur ce verset-là, qui parle de ne vous livrez pas à l'amour, mais contentez-vous. En acte 20, verset 35, une citation de Jésus, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça c'est un challenge, ça c'est un défi. Ok, nous allons parler également d'un budget, rôle d'un budget, et comment le construire. Qu'est-ce qu'un budget? Qu'est-ce qu'un budget? Qu'est-ce qu'un budget? Le budget, c'est un plan pour notre argent. Ce que vous allez faire avec votre argent. Alors, vous avez deux choix. Ou bien vous laissez votre argent gérer lui-même, auquel cas, ça ira très vite. Ou bien vous gérez votre argent et vous dites comment vous allez l'utiliser. Ça, c'est le but d'un budget. Je vous en ai parlé d'un budget mensuel et un budget annuel. Budget mensuel le matin, budget annuel l'après-midi. Aujourd'hui, on va commencer à regarder ici, on va enchaîner davantage cet après-midi, quatre sujets. Comment suivre un budget et comment suivre son argent. Et deux choses différentes, très proches mais différentes. Les dettes, pourquoi on attend des dettes, comment les rembourser plus vite. L'épargne, ça c'est des... comme ça avec John Wesley. Comment donner et comment ne pas donner aussi. Budget mensuel, je vous ai montré ça la dernière fois. Vous dépensez ce papier, tout l'argent du mois, avant le début du mois. Il peut mettre un contrôle très fin de l'argent. Le dernier jour du mois, vous dites, j'ai tant d'argent pour le mois suivant, je vais l'utiliser comme ça. Ça... c'est très nécessaire. Si vous avez peu de recettes, ça c'est très nécessaire. Ça prend du temps, mais le résultat est très important. Je vous ai montré un budget mensuel pour le mois de je ne sais pas quoi. Vous mettez ce que vous touchez en termes de recettes à l'un côté. Vous mettez votre offrande, les dettes que vous allez rembourser, le logement, la nourriture, avec le transport, etc., etc. Je vous montrerai cet après-midi plus de rubriques, comment on dépense l'argent. Ça, c'est un budget mensuel. Suivre un budget, suivre son budget, pourquoi? C'est bien d'écrire un budget sur un papier A4, sur Excel spreadsheet, je ne sais pas comment vous êtes, sur le calculateur, sur le téléphone. Voilà, j'ai fait un budget. Toc! après, après il faut le suivre. C'est bien de dire je vais dépenser mon argent comme ça, mais après il faut voir comment dépenser son argent. Il faut le suivre. Garder les reçus, écrire dans un journal, regarder le relevé des comptes pour les prélèvements, etc. Ça prend du temps. Et je pense que ça, c'est très important de savoir comment vous utilisez votre argent. À la fin du mois, est-ce que votre argent est parti comme vous le vouliez? Votre désagrégation. Est-ce que ça vous gêne? Ça dépend. Si vous êtes très riche, peut-être que non. Si vous êtes normal, peut-être que si. Ça peut vous gêner. Je parlais aussi, j'ai aussi l'importance d'une revue mensuelle régulière de voir comment vous avez dépensé de cela à deux pour les couples. Et ça, c'est important que dans les couples, que tous les deux soient sur la même page. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes jeune, si vous êtes célibataire, quelle que soit la situation là, vous pouvez peut-être faire avec un ami, une amie comme approprié. Et avec les enfants, s'ils sont suffisamment d'âge pour comprendre tout ça. Et quand vous avez suivi un mois, vous faites le budget pour le prochain mois. Et ça s'enchaîne de mois en mois. Et de mois en mois, vous trouverez que votre argent va là où vous le vouliez. Là où vous vouliez que ça aille. Pas forcément le premier mois, mais avec du temps. Ça, c'est important. Suivre son argent. Je vais vous lire quelques versets en Luc. Luc 14. Parable, je vais en lire deux, sur le caractère spirituel du disciple. Le premier parable, c'est la tour. Laquelle de vous, en verset 28, laquelle de vous, si elle veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Et le deuxième, c'est très semblable pour un roi qui se prépare à la guerre. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne cesse d'abord pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient avec 20 000 hommes. On peut revenir à... Et encore, voilà. Pour suivre son argent, pour savoir comment vous allez, les madames, mais les messieurs aussi, quand vous allez dans un magasin et voir quelque chose qui attire votre attention, comment vous savez si vous avez suffisamment d'argent pour l'acheter? Il faut savoir, quand vous allez en tant que pour acheter des vêtements, pour acheter des jeux, pour acheter des téléphones, nouveau téléphone, comment vous allez savoir? Vous gardez les comptes à jour, évidemment, et la banque vous aide avec ça, avec les applis sur le téléphone. Il faut savoir que le non-suivi de son argent est la source de beaucoup, beaucoup d'erreurs. Beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc, je tire votre attention là-dessus. Attention aux écritures en record. Quand on lit le téléphone, dit, j'ai 1 000 euros, est-ce vrai? Oui et non. Oui et non. Attention aux écritures en retard, les chèques. Si vous émettez des chèques aujourd'hui, ça peut prendre une semaine, un mois, jusqu'à un an pour revenir. Carte bleue, quelquefois, ça prend du temps pour revenir. Et les prélèvements bancaires, qu'on avait oublié. Si on a 1 000 euros sur le compte et un prélèvement de 250 euros qui va venir, on n'en a que 750 euros. Donc il faut faire attention à ça. Suivre son argent est important. Anticiper tout, par exemple, des dépenses irrégulières, acheter pour Noël toute l'année. Éviter les achats sur un coup de tête. Les petits achats, des bougies, les moins petits, une voiture, une maison. Ne riez pas, mais j'en ai des amis aux États-Unis qui sont partis un après-midi, ils sont rentrés avec un avion et ont acheté une maison. Et après, il fallait faire de l'eau dans les finances. Tout ça. Aujourd'hui, je trouve dans la publicité qui arrive chez nous, comme je disais, le paiement fractionné. Paiement fractionné est très courant, payé en 3-4 fois. Vous savez de quoi je parle. Là, son frère, est-ce une bonne idée? Paiement fractionné, payé 3-4 fois son frère, est-ce une bonne idée? Je vais vous lire un article à ce sujet. De plus en plus d'enseignes permettent à leurs clients de régler leurs achats en 3 ou 4 fois avec ou sans son frère. Ok, vous connaissez. Ces facilités de paiement ne sont pas si anodines qu'elles l'ont l'air. D'abord, ils ne sont pas couverts par les lois, le crédit, la consommation. Ils ne sont pas couverts par ça, par les lois existantes. Le magasin qui les propose oublie parfois de fournir toute l'information pré-contractuel ou de donner accès au droit de rétractation. De plus, en cas d'incident de paiement, les frais peuvent vite s'envoler. Les pénalités atteignent parfois de 30 à 40% du montant restant dû. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas ou peu de contrôle sur la situation d'un client. Si vous avez des dettes à gogo, vous allez vous acheter quelque chose à 500 euros, payer 4 fois, ok, signez ici, et vous êtes parti pour 125 euros par mois, pour 4 mois, quelle que soit votre situation. Il y a très peu, pas de contrôle, très peu de contrôle, un réel risque de surendettement des ménages. Alors ça, c'est un article que j'ai eu dans un review sur les finances. Gare au paiement fractionné. Je vais vous le relire. Parce que je pense qu'on trouve ça partout et on a tellement tenté. Acheter ceci, 700 euros, 4 fois 225, 175 euros. 4 fois, ou quel que soit le chiffre. De plus en plus d'enchaînes permettent à leurs clients de régler leurs achats 3, 4 fois, 10 fois, avec ou sans frais. Fais gaffe, attention à ces facilités de paiement. Les magasins qui les proposent oublient parfois de fournir toute l'information pré-contractuelle. Et il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de loi qui couvre ce type. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte. Ça passe en dessous du radar, de crédit, etc. Et les pénalités atteignent parfois de 30 à 40% du montant restant dû. Attention, je vous dis ça entre nous, attention au risque de ça. Voilà, je vous ai parlé la dernière fois des plans de précaution. C'est une des choses, si vous n'avez pas fait, c'est une des choses que je vous encourage à tout foyer de faire après que vous avez mis de l'eau dans vos offrandes avec le Seigneur. Mais ceci, c'est un premier pas qui est très important. Vous mettrez, commencez par n'importe quel montant. Visez, mais quand même, visez quelque chose. Visez une épargne de 100 euros, 500 euros. Quand votre voiture tombe en panne, combien coûte-t-il de réparer? 500? 700? Moi, je suis passé au garage récemment, ça m'a coûté 800. Et vous piochez ça en quel compte? Souvent, dans les comptes de dette. Il faut étaler ça. Si vous avez un épargne de précaution, vous pouvez faire face à ces problèmes. Vous pouvez faire face aux difficultés qui ne vont pas manquer de surgir dans la vie. La voiture tombe en panne, quelque chose qui tombe en panne dans la maison, vous êtes aussi humain que nous. Vos maisons sont aussi humaines que la nôtre. Que la nôtre. Donc, plus tard, vous commencez à mettre de l'argent, plus tard, vous visez plus d'argent. Là, n'utilisez que pour des événements imprévus. La voiture qui tombe en panne est un événement imprévu. Quelque chose dans la maison qui tombe en panne est un événement imprévu. Qu'est-ce qui n'est pas un événement imprévu? La fin du mois. La fin du mois, aux dernières nouvelles, n'est pas imprévu. La fin du mois arrive tous les mois. Avec accord mutuel des partenaires, si on couple, après prière et après une nuit de repos, cet argent que je vous encourage à mettre de côté n'est pas un dépannage de quelconque, c'est un dépannage précis, spécifique pour des problèmes urgents. Et je vous invite à gérer ça en couple. Un autre sujet qui est majeur dans le monde dans lequel nous vivons, en France, en Angleterre, aux États-Unis encore plus, c'est les dettes. Les États-Unis, en tant que pays, vivent en dette. Nous pouvons aussi être tentés de vivre en dette. Pourquoi sont des dettes? Achat pour se consoler, surtout en déprime. Les jeunes, pouvez-vous m'aider? Qu'est-ce qu'un IFI? Vous savez de ce qu'un IFI est? Comment vous appelez ça aujourd'hui? Parce que ça date de un moment. IFI, non? Ça vous dit rien? Comment vous appelez une petite station de radio? Hein? Une enceinte. Ok, une enceinte. Okay. Dans le temps, je dis. Ça révèle un peu mon âge. J'avais un ami dans une église où j'étais qui vivait en un F2. Il avait un petit salon, sa chambre, la cuisine, etc. Okay. Il avait à la maison 9 enceintes. 9 systèmes d'enceintes. Pourquoi, mon ami? Pourquoi tu as ça? Chaque fois que je suis déprimé, je vais au magasin et je reviens avec une nouvelle enceinte. On a beaucoup parlé, lui et moi, et par la grâce du Seigneur, il a pu vendre pas mal des enceintes. Il n'y avait pas besoin d'un neuf enceinte dans un F2. Deux, peut-être, mais un suffit normalement. Et donc, il a vendu pas mal et mis de l'ordre dans ses... Le fief des achats, achats sur impulse, on dit souvent que c'est lié aux dames, mais c'est aussi lié aux messieurs. C'est pas spécifique. Non. Achats sur... Fief d'achat. Sous-dépenses, achats et crédits, mauvaise gestion, carte de crédit. Pourquoi on a tant de dettes? Tout achat et crédit est plus cher qu'un achat direct. Pour acheter direct, il faut épargner. D'abord, et mettre de l'argent de côté. Mais si vous faites ça, ça coûte moins cher. Règle pour les dettes. Je vous ai déjà montré ça la dernière fois. Vous remboursez les dettes. Vous payez le minimum. Vous remboursez les dettes. Vous assurez la période de... C'est comparable à la période d'utilisation de tout et vous remboursez les dettes. Je vous ai dit ça la dernière fois, ce n'est pas compliqué, mais il faut bien le faire. Où commencer? Première chose à avancer. Alors, je dis ça comme ça, je dis ça dans toutes les églises où je passe, je ne vise personne. Si ça vous concerne, vous gardez ça en couple, c'est le but, c'est ça, et vous pouvez me voir si vous voulez après. Mais j'ai à mettre le problème. En couple, si vous êtes en couple, avec un ami, si possible, stop. Stop. Action pratique, découper des cartes de crédit, revendre des achats sur eBay. On peut faire beaucoup de choses, particulières à particulier. On peut vendre beaucoup de choses. Signer la promesse. Alors, vous pouvez pas lire ça, de là où vous êtes, mais je vais vous lire quelques lignes. Engagement financier pour un couple, c'est la même chose pour un célibataire. Vous n'êtes pas épargné. Étant gestionnaire de tout ce que Dieu nous a confié, nous nous engageons avec l'aide de Dieu à poursuivre les principes bibliques de gestion de l'argent, de telle façon que, le premier point, nous dépenserons moins que nous ne gagnons. Nous ne penserons pas ce que nous n'avons pas. Et c'est tout. D'autres remarques là-dessus. J'ai quelques exemples de ça, si c'est utile. En bas, il y a une place pour signer pour le couple, signer les deux côtés. Et en dessous, qu'on ne voit pas l'écran, il y a une place pour deux témoins. Et ma femme et moi, on fait ça assez souvent. Où commencer? Et je vais vous dire cet après-midi comment rembourser les dettes plus vite. Vous écouterez, vous prendrez des notes si ça vous concerne. Vous pouvez partager ça avec d'autres. Mais commencer un plan draconien afin de réduire les dettes. Ça veut dire, un draconien veut dire sérieux. Prendre Dieu pour garder parole. En Psaume 37, nous lisons que le méchant emprunte et ne rend pas. Et en 2 Rois 4, Élisée a dit à la veuve, va vendre l'huile et paye la dette. Dettes sont une entrave à la liberté financière. Je vous ai parlé de paiement fractionné tout à l'heure. Je vais vous parler d'une autre chose maintenant. Le crédit permanent. Vous connaissez la différence. Vous connaissez le crédit permanent? Crédit revolving, où on prend une carte au magasin, n'importe quel grand magasin, et vous pouvez avoir 1000, 2000, 3000, tout ce que vous voulez. Là, et c'est ça. Mais c'est aussi à taux d'intérêt. Ce n'est pas 3-4 fois sans frais. Taux d'intérêt 10-15%, etc. Un article apparu dans le Figaro dans le passé parlait du crédit permanent, aussi appelé crédit revolving, disant le suivant. Dans certains magasins, le revolving, le crédit, est indissociable de la carte de fidélité. Et de nombreux clients finissent par utiliser cette facilité qui leur est offerte sans qu'il ait demandé. Le crédit permanent s'agit de réserves d'argent à utiliser avec sagesse. Le taux d'intérêt peut être prohibitif de 3, voire presque 4 fois supérieur à ceux d'un prêt personnel classique. Consommateurs, sachez-le, la meilleure façon de limiter à l'avenir vos soucis financiers consiste à utiliser le crédit permanent avec modération et à vous en débarrasser le plus vite possible. Ça, c'est un article de Figaro, et ce que j'ai écrit sur mes notes ici en dessous, c'est merci, M. Figaro. Je trouve les conseils très intéressants. Réduction des dettes suite. Trois conséquences pour la réduction des dettes. Vous savez ça, réduction de tension, amélioration de la situation financière, flexibilité pour l'avenir. Si vous avez un tas de dettes à régler, votre argent n'est pas le vôtre. Okay. Commencez aujourd'hui, et je vous ai montré ce bonhomme la dernière fois. J'aime bien. Non, je vais revenir. Commencez aujourd'hui pour ça, et vous aurez la liberté. Pas forcément de sauter comme lui, mais vous aurez la liberté. Là. Comme je dis, cet après-midi, je vais en parler davantage pour aller plus vite. Là. Bon, nous arrivons à quelques conclusions. Jésus dit que le premier indicateur spirituel dans nos vies, l'argent, c'est le premier indicateur spirituel. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle en ce qui est important. Car là où est ton trésor, il sera aussi ton cœur. Je vous invite, je vous encourage à ne pas mettre votre confiance dans l'argent ou dans le bien de ce monde, mais de confiance en Jésus, ce qu'on a chanté tout à l'heure, mais y compris dans ce domaine d'argent. Et je vous laisse avec les mêmes exercices pratiques que la dernière fois. Prier pour la gestion de l'argent, donner régulièrement, commencer une épargne de précaution, créer et suivre un budget du mois de juin après la maison partie, poursuivre le remboursement des dettes. Et je voulais prier pour vous aussi. Que je n'oublie pas ça. Père, je prie encore après tout ça que vous avez vu ce matin, je prie que tu dénoues les liens avec maman, s'il y a quelqu'un ici qui est attiré par l'argent dans ce sens-là. Aide-nous à apprendre à être contents de ce que tu nous as confié et de donner généreusement comme le Seigneur le fait. Donne-nous de la sagesse pour savoir comment utiliser l'argent que tu nous as confié. Ok. Ça, c'est tout pour ce matin. Il y aura plus de détails cet après-midi. Est-ce que Emile, tu reviens là? Ok. J'ai encore une chose à faire pour voir si vous avez bien suivi. Voilà. Si nous avons bien suivi, ça nous concerne tous. Alors, viens. Tu penses qu'on a bien suivi ce matin?
Je pense.
Tu penses qu'on a bien compris que l'argent qui nous est confié, c'est l'argent du Seigneur qui nous a donné ensemble. Et que nous comprenons que l'importance, c'est donner. Ok, je vais mettre ça en preuve, à l'épreuve maintenant. Qu'est-ce que ça? Un billet, oui, c'est un billet. Vous pouvez voir de là-bas, ça va être de combien de billets, hein?
50.
Ok, très bien, billet. Ok. Alors, à qui appartient ce billet? Alors, réfléchissez bien, parce qu'il va y avoir trois réponses. Pas deux, comme vous pouvez peut-être imaginer, ou une seule réponse, il va y avoir trois réponses. Et pour vous aider, je ne connais pas la troisième réponse encore. Ça, je vais trouver tout à l'heure. Alors, première réponse, à qui appartient cet argent? Oui, j'ai sorti de ma poche. Oui, vous avez vu ça, à moi. Deuxième réponse, à Dieu. Oui, tout à fait. Et la troisième réponse, c'est plus compliqué, et je vais mettre ça en œuvre maintenant. Là.
Et merci pour ce message. Nous allons mettre en pratique ce que nous avons entendu. Donc le panier est là-bas, si quelqu'un veut bien passer pour récolter les offrandes. Et je vais appeler notre frère Émile pour les offrandes et notre frère Claude pour les annonces.